Semaine Sainte 2018.
Semaine Sainte 2018 avec la communauté des Béatitudes.
Voilà, nous attaquons donc cette deuxième tranche de la matinale. Voilà, nous allons maintenant introduire au mystère du jour et nous ont rejoint d'autres radios, Étienne.
Bonjour, oui, Étienne. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Donc, d'un certain nombre de radios chrétiennes qui, à partir de ce matin, à cette heure précise, nous rejoignent et puis vont vivre avec nous tout ce temps du Triduum Pascal en direct de la communauté des Béatitudes de Blagnac. On salue donc les auditeurs du Gard, Radio Ecclésia, du Pays Basque avec Radio La Purdie, de Corse avec nos amis de Radio Salve Regina et puis les auditeurs de Mayenne qui écoute Radio Fidélité. Bonjour à vous tous et très bon Triduum en notre compagnie.
Voilà, il y a du monde maintenant qui nous a rejoint. C'est donc une deuxième partie de matinale, on va dire, plus spirituelle ou plus teintée de ce que nous allons contempler pendant ces trois jours qui commencent. Autour du plateau, il y a le père Benoît Joseph. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez bien près du micro. Et sœur Anne, pardon, voilà que j'oublie votre prénom, vous allez vous présenter vous-même.
Sœur Claire Anne.
Voilà, sœur Claire Anne, vous n'étiez pas prévue, mais on est ravis de vous accueillir. C'est ça le direct du Triduum, sœur Claire Anne. Je proposais, père Benoît Joseph, évidemment, qu'on commence par expliquer ce que l'on va aujourd'hui contempler. Il se passe beaucoup de choses, en fait, pendant ces trois jours.
Tout à fait.
Voilà, Jésus vit énormément de choses. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois grands moments que nous font contempler la liturgie de la vie du Christ, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie et Gethsémani. Alors faites-nous cette introduction, on va dire, version grand public.
Alors, ce triptyque, justement, nous fait entrer dans tout le mystère de Dieu qui est humble, d'abord. Dieu qui se penche sur l'humanité, hein, avec ce lavement des pieds. L'institution de l'Eucharistie, c'est encore l'humilité. C'est Dieu qui va se mettre à la portée des hommes pour être touché, pour être reçu. Et Gethsémani, c'est encore Dieu qui est humble, qui accepte d'épouser toute la souffrance des hommes, toute, quelle qu'elle soit, pour se pencher sur cette souffrance, pour la prendre avec lui, pour la prendre sur lui. Donc, tout est tourné vers ce mot-clé, c'est l'humilité de Dieu, et qui nous fait entrer dans une démarche, pour nous aussi, d'humilité pour recevoir celui qui est humble. Si on est trop grand, on ne peut pas recevoir Dieu. Il faut devenir petit pour pouvoir le recevoir. C'est le mystère de ce jour.
Alors, le lavement des pieds, donc pour rappel, c'est Jésus qui lave les pieds à ses disciples, tout simplement. C'est donc quoi ? C'est juste avant l'institution de l'Eucharistie, c'est comme ça qu'on le situe ?
On peut le situer comme cela. C'est le moment où Jésus est réuni avec ses apôtres. Bon, pendant le Cédère, pas pendant le Cédère, c'est plutôt difficile de pouvoir vraiment le situer exactement, mais on sait que Jésus a posé ce geste de prendre le temps de laver les pieds de ses disciples, c'est-à-dire prendre la position de l'esclave. Non pas prendre la position du maître, il quitte la position du maître, de celui qui a enseigné ses apôtres, où là, il va faire un enseignement sans parler. Il va poser un geste de s'abaisser, et on comprend la réaction de Pierre. « Ah ben non, pas moi !» Mais justement, il faudra que Pierre consente aussi à ce que Dieu puisse descendre jusque-là pour qu'ainsi il puisse lui laver les pieds et ainsi être lavé de tout son péché.
On s'est dit qu'on allait pour travailler à illustrer ces différentes étapes des mystères de ce jour, prendre des phrases du pape François qui a l'art de la formule et qui donc peut nous aider à contempler ça, on va dire, à frais nouveaux. Là, c'est une phrase extraite du Jeudi Saint 2017. Il avait dit la chose suivante: celui qui me semble le plus grand doit faire celui qui semble le plus grand doit faire un travail d'esclave, mais pour semer l'amour. Comment vous commenteriez cette phrase, un travail d'esclave? Le mot est fort, non? Est-ce que Jésus se mettait à la place de l'esclave en faisant ça?
Oui, il se met à la place de l'esclave. parce que c'est seulement l'esclave qui lavait les pieds. Ce n'était pas celui qui recevait la personne chez elle qui lavait les pieds. C'était l'esclave qui lavait les pieds après un temps de marche. Donc, c'était un signe d'accueil. On avait les pieds sales, c'était un signe d'accueil. Donc, le pape François montre bien d'abord combien Dieu s'abaisse. Et ça ne lui pose pas de difficulté à Dieu de s'abaisser. Parce que c'est le propre de l'amour que de descendre, de se mettre à la portée des hommes et de montrer combien Dieu est capable d'aimer jusque-là. Et donc, il faut comprendre que ce texte, cette petite phrase que vous avez située, c'est une homélie effectivement du pape François, mais dans une prison, dans la prison de Paliano, Frosinone, je ne sais pas comment, je ne suis pas très italien. Mais
bah, il tient d'aller voilà. Opine du chef, donc ça doit être à peu près
voilà.
Ça.
Donc, c'est des prisonniers que le pape s'adresse.
C'est-à-dire que le pape François était allé laver les pieds des prisonniers.
Exactement.
C'était même d'anciens mafieux.
Non, je n'ai pas le contenu du public.
Je vous le dis parce que...
D'accord, très bien. Donc, il montre bien, justement, combien il y a dans l'homme ce désir de puissance, d'orgueil, de dominer. Et le pape François, en parlant à ces hommes, montre que Dieu a pris le chemin inverse. Il a pris le chemin de la petitesse, de l'humilité, de l'amour parfait qui se donne, qui se livre et qui consent justement à descendre. Et c'est probablement... depuis qu'on est petit, on est appelé à monter tout le temps. Quand on est petit, dans notre éducation, c'est monter, monter, monter. Alors que le mouvement divin, c'est descendre, descendre, descendre. Et entrer dans ce triduum en descendant. Voilà ce que le Seigneur nous propose.
La deuxième phrase qu'on a choisie cette fois, c'est pour l'institution de l'Eucharistie. Je fais juste un dernier écho, c'est qu'il y a des photos donc, de ce lavement des pieds du pape François. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on voit qu'il le fait vraiment avec beaucoup d'amour. La deuxième phrase, c'est donc pour illustrer l'institution de l'Eucharistie. Cette fois, c'était une homélie de la Fête Dieu 2017 du pape François. Et la phrase est la suivante. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité et conduit celui qui communie à être un artisan d'unité. C'est une manière originale de présenter l'Eucharistie. Peut-être redite en quelques mots ce qui se passe, parce que on l'espère qu'on n'a pas que des auditeurs qui sont familiers de la liturgie. Et puis voilà cet accent que met le pape François sur l'unité.
Alors déjà, on va essayer de vulgariser le mot Eucharistie, c'est la messe. Le mot communément utilisé, c'est la messe. C'est le mot qui est le plus connu. Donc on va à la messe le dimanche. Bon, donc pourquoi la messe est le lieu de l'unité? Il y a un seul corps, c'est le corps du Christ, qui est partagé pour tous. Il n'y a pas trois corps, quatre corps, cinq corps, six corps. Il y a un seul corps. C'est pourquoi l'Eucharistie, la messe, est un principe d'unité en soi. Parce qu'on mange à un seul corps, à une seule table. Il n'y a pas 36 tables comme dans un banquet. Pourtant, on peut être 200 personnes, mais pourtant, il y a une seule table. Il y a un seul mets. C'est cette vulgarité, mais il y a une seule nourriture à un seul lieu qui va nous être donnée et qu'on va recevoir. C'est pourquoi l'Eucharistie est effectivement un principe d'unité, parce que le Christ se donne lui-même tout entier à tous en même temps.
Vous pensez que les apôtres, sur le moment, ont compris ces paroles du Christ, le Christ a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ça peut peut-être nous déculpabiliser, non, d'avoir du mal à tout à fait comprendre.
Je suis incapable de pouvoir vous dire si les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là. Ils l'ont vécu. Ils l'ont tous reçu. Et ils ont probablement été bouleversés par ce qui se passait. Moi, je pense qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est après la Pentecôte que tout a pris sens, que tout s'est illuminé dans leur esprit pour donner la portée et la mesure de ce que Jésus faisait. Mais ce qui est important, c'est que je ne peux pas recevoir le Christ, le corps du Christ, sans me sentir en communion avec celui qui l'a reçu à côté de moi, celui qui l'a reçu en Inde, celui qui l'a reçu aux États-Unis, celui qui l'a reçu au Japon. C'est le même corps, c'est donc la même unité, la même communion. Le mot communion, c'est le mot clé. Le corps du Christ nous introduit dans un principe de communion les uns avec les autres.
Est-ce que vous pouvez commenter aussi le terme artisan de paix? C'est-à-dire qu'il nous invite du coup à devenir artisan d'unité. Je ne sais pas, est-ce à dire que c'est les suites, on va dire, de la participation à l'Eucharistie, ou est-ce que c'est, on va dire, aussi des conditions? Est-ce qu'il faut arriver avec un cœur un peu unifié?
J'irai les deux, mais c'est vrai que dans l'esprit du pape, me semble-t-il, dans le texte que vous citez, c'est qu'il nous invite justement à sortir des clivages, à sortir des guerres de clochers, tout ce qui, à sortir de nos divisions pour entrer vraiment vers un chemin d'unité. C'est ça que le pape veut, qu'on devient artisan d'unité, parce que celui qu'on reçoit n'est pas divisé. Celui qu'on reçoit est unifié, il est un. Et c'est pourquoi le pape nous dit, ce que tu manges, tu dois le devenir. Tu dois être d'abord être unifié en toi-même. Hein. Le premier à être unifié, c'est chacun de nous. Et puis après, ben, d'être agent de communion, c'est là que le pape parle, dire arrêtez les divisions, arrêtez de vous sentir supérieur aux autres, ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'il décrit dans le reste de l'homélie. Voilà.
La troisième phrase qu'on a choisie, donc, c'est pour illustrer Gethsémani. Alors, vous avez cité le mot Gethsémani. Là, pour le coup, c'est peut-être plus difficile. Qu'est-ce que c'est, Gethsémani ? Donc, c'est un lieu, mais surtout, qu'est-ce qui va s'y vivre ?
C'est le lieu où Jésus, après qu'il ait lavé les pieds de ses apôtres, qu'il ait institué l'Eucharistie, va quitter...
Où est-ce situé peut-être
Alors voilà,
j'imagine qu'on est en Israël.
On est à Jérusalem, et là Jésus va traverser la vallée du Cédron pour aller de l'autre côté où il y a un jardin qu'on appelle Gethsémani.
Donc c'est à l'est de Jérusalem.
C'est à l'est de Jérusalem. Là vous me posez une bonne
question. Oui, je crois, c'est à l'est de Jérusalem.
À l'est de Jérusalem. Donc c'est un jardin où il y a plein d'oliviers, où Jésus allait régulièrement. À chaque fois qu'il était à Jérusalem, il allait là.
Il allait pour prier, je crois.
Il allait pour prier, mais pour enseigner aussi ses apôtres, pour parler d'une manière plus intime, pour leur enseigner des choses plus profondes à eux seuls. Jésus va se retrouver dans ce lieu, parce que c'est dans ce lieu que Judas, l'un des 12 apôtres, qui a déjà quitté, il faut savoir que Judas n'est pas là au moment du lavement des pieds, ni au moment de l'institution de l'Eucharistie, il est déjà parti.
Pourtant, dans les évangiles, parfois, les disciples lui posent la question, disent « Qui est celui qui va te livrer ?» Et Jésus dit « C'est celui qui se sert en même temps que moi. »
Qui se sert, mais Jésus n'a pas encore institué l'Eucharistie. Et c'est après que Jésus, une fois que Judas est parti, va laver les pieds de ses apôtres, ainsi de suite. Donc, ce lieu est le lieu d'une intimité, d'un dialogue le plus profond, le plus intime entre le Fils éternel et le Père. Et Jésus va porter, c'est là où, dans sa liberté souveraine, va consentir avec amour et avec humilité à prendre ce chemin. Il a l'opportunité de dire à son père « c'est trop ». Et non, il va entrer dans cette volonté divine parce que, justement, c'est le salut du monde. C'est l'élévation de l'humanité jusqu'à Dieu par son sacrifice.
Vous voulez dire qu'il a pleinement conscience de ce qui va se vivre ?
Tout à fait.
Et qu'il doit à ce moment-là y consentir, c'est ça ?
Exactement, il a pleinement conscience. Et c'est là toute la beauté, la grandeur et la force du Fils, du Verbe éternel, c'est de dire un oui pleinement conscient.
La phrase qu'on a choisie du pape François, cette fois, c'était justement à Gethsémani, lorsqu'il est allé en Terre Sainte, c'était en mai 2014, il s'adressait aux religieux, religieuses, séminaristes, à l'église donc, de Gethsémani. Alors, ce n'est pas tout à fait sur le lieu dit, mais c'est en tout cas juste à côté pour y être allé. La phrase est la suivante. « Suis-je de ceux qui, invités par Jésus à veiller avec lui, s'endorment et au lieu de prier, cherchent à s'évader en fermant les yeux devant la réalité ?» Il s'adressait donc en particulier aux religieux et religieuses, vous allez nous dire pourquoi. La phrase est forte, hein, plutôt que de chercher à s'évader en fermant les yeux devant la réalité. Comment vous commenteriez cette phrase et comment elle peut nous rejoindre, même si on n'est ni religieux ni religieuse ?
Dans la vie consacrée, c'est vrai qu'on peut se faire une vie confortable, une belle petite vie de prière, ainsi de suite. Le pape réveille, est en train de nous réveiller pour que tout consacré, tout prêtre que nous sommes, de pouvoir toucher la réalité de la souffrance de ce monde. Parce que Gethsémani, c'est Jésus qui porte la souffrance, qui la prend dans son cœur. Il la prend pas seulement sur ses épaules, il la prend dans son cœur. C'est-à-dire qu'il la ressent, qu'il sait que l'homme et la femme souffrent et que la seule façon d'en libérer, c'est de pouvoir s'offrir à son Père par amour. Donc, le pape François invite à ce jeudi à prier, à porter dans notre prière du Jeudi Saint, tous ces lieux de souffrance que nous connaissons, de les prendre dans notre cœur et d'en avoir mal à quelque part, d'en souffrir. Je lisais encore cette semaine certains témoignages de jeunes des bidonvilles de Manille et j'étais bouleversé de voir combien la souffrance, combien elle est autour de nous et Gethsémani est l'opportunité pour tout consacré, tout prêtre, de prendre cette souffrance dans son cœur et d'avoir une compassion à la mesure de la compassion du Christ qui s'abaisse à Gethsémani pour s'offrir.
Et de prier, puisque le pape, en l'occurrence, appelle à veiller et prier.
Bien sûr, parce que celui qui peut vraiment libérer de la souffrance, on sait très bien que ce n'est pas nous, c'est le Christ, c'est Dieu. Seul Dieu peut nous inspirer les gestes d'amour, les gestes qui vont soutenir tous ceux et celles qui souffrent. C'est pourquoi prier Dieu pour que la grâce de Dieu puisse aussi infuser le monde, infuser notre propre vie pour nous inspirer les bons gestes, les bonnes paroles qui ne seront pas seulement des paroles de philanthropie ou des gestes de philanthropie, mais qui seront la main même de Dieu qui vient toucher cette personne.
Vous voulez dire que vous croyez que si vous portez, par exemple, dans votre cœur la souffrance de ces enfants dont vous parlez dans les bidonvilles à Manille, Dieu peut entendre votre prière et il peut se passer des choses pour ces enfants-là?
Je le crois fermement, et je crois fermement que ma prière trouve un écho auprès de Dieu et que cette prière va toucher ses enfants, cette prière va toucher tous ceux et celles qui travaillent auprès de ses enfants. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas avec vous ici ce matin.
Sœur Claire-Anne, vous avez eu la lourde charge de remplacer l'une de vos sœurs au dernier moment. Alors, vous allez rester avec nous, Père Benoît-Joseph, pour aider votre sœur dans le témoignage qu'elle va nous donner. En fait, on s'est dit qu'on contemplait souvent pendant ce Triduum Pascal des très grands mystères. Et puis, Jésus, c'est à la fois il y a 2000 ans ou très intimidant. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver à illustrer pour que tout à chacun se sente rejoint ce qui était vécu le jeudi et le vendredi saint. Alors vous, sœur Claire-Anne, vous avez été sélectionnée par votre communauté parce que, entre autres, vous avez passé plus de 20 ans dans un hôpital de brousse en République démocratique du Congo, à Cabinda. Vous êtes depuis plus de 30 ans en communauté, depuis 2 ans à Blagnac, et vous avez été médecin à Cabinda là-bas. Alors à quoi ça ressemble cet hôpital de brousse? Est-ce que vous pouvez nous imaginer, on fait un coup de zoom là avec Google Earth, et est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble et où est-ce qu'il se situe cet hôpital?
Alors d'abord, la République démocratique du Congo, c'est un très très vaste pays qui fait 5 fois l'étendue de la France. Et Cabinda se situe au plein centre de la République démocratique du Congo, dans un lieu qui est particulièrement enclavé. Il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes qui sont défoncées. C'est vraiment une catastrophe géologique, je dirais. Et il n'y a pas d'aéroport. Vraiment, c'est une affaire très difficile que de parvenir en Land Cruiser jusqu'à Cabinda, et surtout en saison des pluies.
Alors on a fait 2 fois de la pub pour Google et pour Land Cruiser, mais c'est pas grave, heureusement. C'est un hôpital donc qui couvre, vous me disiez en préparant, 19 000 km², c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital pour toute cette zone, il n'y a pas d'autre hôpital que cet hôpital?
Oui, c'est un hôpital général de référence pour une zone de santé de 19 000 km² et où il y a à peu près 250 000 habitants. Donc il y a des dispensaires. Et les malades viennent à partir de leur maison, de leur case ou bien du dispensaire qui les réfère vers l'hôpital de référence. Ils arrivent souvent à vélo sur un fauteuil en bambou qui est placé sur le porte-bagages du vélo. Et souvent, ils sont couverts par un pagne pour les protéger du soleil et parce que aussi ils sont très malades, soit gonflés par des édèmes ou bien particulièrement maigres. On reçoit beaucoup d'enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère.
Alors, je vois le temps qui passe, donc on avance. Vous me disiez que vous avez été médecin là-bas pendant plus de 20 ans. Ce qui vous a frappé, c'est que vous avez eu l'impression de mettre vos pas, d'une certaine manière, dans cet esprit de service qui a été celui de Jésus. Vous aviez une phrase à nous citer pour cela.
Oui, Jésus nous dit dans sa parole « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi ». Donc, il nous appelle à l'imiter dans le don de notre vie, au service de nos frères. Et donc, c'est ce qui m'a appelé particulièrement à le suivre dans cette compassion auprès des plus pauvres et au plein cœur de l'Afrique.
Vous avez souvenir d'une situation, par exemple, qui pourrait illustrer cela? Je ne sais pas, un malade ou un moment qui pour vous est particulièrement frappant?
Oui, bon, je me souviens de malades très malades et qui, sur le visage, ne montraient pas le signe d'une telle souffrance pour dire combien ils sont habitués à la souffrance. Et quand ils arrivent à l'hôpital, l'hôpital leur offre le mieux qu'il peut faire, malgré nos limites. Et donc, ils sont déjà très contents d'être arrivés jusqu'à l'hôpital de Cabinda après avoir parcouru 200-300 kilomètres.
Il y avait un autre chose que ça peut paraître audacieux que vous vouliez commenter, c'est que mystérieusement, selon vous, en ce jeudi saint, il y avait de la joie en fait dans le cœur du Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fonde cette certitude ?
Bien, Jésus est en train d'accomplir la volonté du Père, et c'est cet accomplissement de la volonté du Père qui le porte à faire finalement toute chose nouvelle selon le plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est cette joie secrète qui est sa force.
Et vous aviez un parallèle à faire avec votre vie et votre appel.
Oui. Quand j'étais enfant, j'ai eu un appel à me consacrer à Dieu. Et j'ai été très touchée par une leçon de catéchisme quand j'avais 8 ans. Et la catéchiste a donné l'exemple d'une jeune femme qui avait réussi avec grand succès sa carrière professionnelle, mais qui en fait n'était pas profondément heureuse parce qu'elle n'avait pas répondu à l'appel de Dieu. Ça l'aurait comblée et elle vivait un vide parce qu'elle n'a pas correspondu au projet que Dieu assurait. Alors Dieu a un projet sur chacun de nous. Il nous faut rester à l'écoute par son Saint-Esprit et adhérer à ce projet. C'est ce qui est la source du vrai bonheur pour chacun de nous.
Merci beaucoup, Sœur Clairanne. Oui, vous en êtes parfaitement sortie. Vous avez remplacé au pied levé dans cette communauté charismatique et donc pleine de surprises. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous inspire un rapide commentaire, Père Benoît-Joseph, peut-être cette illustration de ce service pendant 20 ans dans un hôpital? On se dit que là, certainement que les paroles du Christ prennent un relief particulier, parce que quand on a fait plusieurs jours de trajet à pied et qu'on est accueilli par Sœur Clairanne, on doit trouver ça quand même globalement très consolant, non ?
Je me rappelle une parole du commissaire pontifical, le frère Henri Deneau, qui disait, après avoir vu Cabinda, il dit « Je n'ai pas vu la pauvreté, j'ai vu la misère à Cabinda ». Cabinda, on entre dans une autre dimension, c'est la misère, c'est autre chose. Ce n'est plus la pauvreté, c'est « il n'y a rien ». Et donc, le simple fait de donner un verre d'eau, c'est un geste qui est grand, qui est immense à Cabinda. Le simple fait de laver une plaie dont on sait que c'est... On ne sait même pas que si elle va pouvoir guérir, si cette plaie va guérir. Le simple fait de la laver, la personne existe. Parce que les gens là-bas n'ont rien autour d'eux, ou pratiquement rien. Et donc, l'hôpital est tellement important pour eux. Vous savez, lorsqu'il y a eu les grands événements de la Grande Guerre, les rebelles sont arrivés à Cabinda. Et nos frères et sœurs, les modérateurs avaient appelé pour dire « on peut vous faire revenir en France ». Donc, tous avaient dit « non, nous restons près du peuple ». Et lorsque les rebelles sont arrivés, les gens, c'est les gens de la ville de Cabinda qui se sont mis autour pour dire « vous ne toucherez pas à notre hôpital ». C'était leur lieu d'espérance. Et ce qu'ils avaient de plus cher, parce qu'ils ont vu des résurrections, ils ont vu des guérisons. Et c'est une richesse inouïe pour ce peuple et qui aujourd'hui, de tout petit hôpital que c'était à l'époque, aujourd'hui on est rendu à plus de 150 lits avec des blocs opératoires, des appareils vraiment hyper modernes et avec l'électricité du pays, malheureusement c'est très difficile, donc il faut à ce moment-là avoir toute l'énergie solaire. Mais voilà, c'est l'espérance aujourd'hui qui s'exprime à travers cet hôpital au milieu d'un peuple qui souffre.
Ben merci beaucoup, Père Benoît-Joseph, d'être venu au micro
Avec plaisir.
De Radio Présence, donc pour nous introduire à ce jeudi saint.